32 30, France Inter au bout du fil.
Il est exactement 14h03, vous êtes bien sur France Inter, c'est bien 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et merci et bonjour à tous. Aujourd'hui à propos de l'excellente biographie que vient de lui consacrer Jean-Christian Petit-Fils, un roi aussi célèbre que méconnu, Louis XVI. J'aime mieux laisser interpréter mes silences plutôt que mes paroles. Louis VII. Mille ans d'histoire. On sait que le soir du 14 juillet 1789, ignorant encore ce qui se passait à Paris, Louis XVI n'écrivit dans son journal qu'un seul mot, rien. Comme si rien ne s'était passé ce jour-là, rien, ce mot à lui tout seul, a servi à des générations d'historiens pour en conclure que Louis XVI n'avait décidément rien compris à la Révolution et qu'il était plus intéressé par la chasse ou sa passion pour les serrures que par les préoccupations et la misère des Français. Ce portrait réducteur d'un roi velléitaire, trop faible et influençable pour faire face à la Révolution, on le retrouve depuis plus de 200 ans dans presque tous les manuels scolaires et sous la plume de beaucoup d'historiens, y compris ceux qui ont cherché à le réhabiliter en en faisant un martyr. « J'aime mieux laisser interpréter mes silences plutôt que mes paroles », disait un jour Louis XVI à Malesherbes. Mais a-t-on jamais essayé de comprendre et d'écouter les silences et les paroles de ce roi, dont les derniers mots sur l'échafaud le 21 janvier 1793 avaient déjà été rendus inaudibles par les tambours de la garde nationale ?
« Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Alors cet extrait de film que l'on vient d'entendre est parfaitement conforme à ce qui s'est réellement passé le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution,
tout
la place de la Concorde. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre biographie de Louis XVI qui a été saluée par tous les critiques parce que elle nous fait découvrir un homme qu'on croyait connaître. Et là, vous nous montrez au fond qu'il n'est pas du tout conforme à l'idée que l'on se fait de lui depuis à peu près deux siècles. Par exemple, on ne retient que les cris de haine de la foule des Parisiens qui saluent sa mort en 1793, alors que vous le rappelez, 20 ans plus tôt, quand il est monté sur le trône en 1774, il était un des rois les plus populaires de notre histoire.
Absolument. Il succède à un roi, Louis XV, qui est un roi impopulaire quand il meurt. Et c'est un jeune homme, il a 19 ans, bientôt 20 ans. Il est bon, il veut le bien de ses sujets, le bonheur de ses sujets. C'est déjà le langage c'est encore le langage du XVIIIe siècle dans la bouche d'un roi. Il s'occupe des pauvres. Marie-Antoinette, son épouse, est elle-même très populaire. On parle d'un nouvel Henri IV. Et vraiment, il y a une grande ère d'affection entre le roi et son peuple.
Il y a une scène d'ailleurs qui est très impressionnante dans votre livre. C'est un voyage dont on parle peu aujourd'hui. C'était en 1786, donc c'était quand même 12 ans après, à Cherbourg. Et là, il est vraiment acclamé par le peuple. D'ailleurs, il se montre très débonnaire. Il partage la nourriture des paysans, etc. C'est très extraordinaire, ce voyage.
Ah, c'est un voyage extraordinaire pour lui. C'est le seul voyage qu'il fera en dehors du voyage de Varennes, en dehors des voyages, naturellement, dans les châteaux royaux. Mais c'est le seul contact qu'il a avec le peuple. Il est isolé au sein d'une cour qui lui est hostile, d'une façon générale. Mais là, cette rencontre, il va visiter des travaux gigantesques qui sont faits pour la construction de la rade artificielle de Cherbourg. Singapour. On veut créer un port contre l'Angleterre, contre la puissance navale anglaise. C'est en juin 1786 qu'il fait ce voyage, et il est heureux, loin des cancans de la cour. Il est parti avec quelques gardes, simplement quelques gardes du corps et une petite cour très réduite. Et c'est vraiment un extraordinaire contact s'établit tout de suite avec les populations locales. Il est acclamé, il s'est embrassé, il embrasse les jeunes filles, il dote une jeune fille qui est enceinte et dont les parents ne veulent pas de ce mariage. Enfin, c'est vraiment une idylle extraordinaire, et on est à 3 ans de la Révolution, à 5 ans de Varennes, où il sera ramené par la force et par les troupes.
Et on est à Cherbourg, Jean-Pétain-Pétivis, vous l'avez rappelé, qui est un port artificiel qui a été voulu par Louis VII. Ce roi aussi, dont on a dit qu'il n'était pas très cultivé, qu'il n'avait pas d'intérêt pour grand-chose, sinon pour les serrures, c'était un roi, d'abord c'était le roi du siècle des Lumières, après Louis XV, et un roi qui était passionné par les sciences, notamment. Voilà, car ce port artificiel, c'était vraiment une prouesse technique.
Une prouesse technique. C'est un roi scientifique, c'est le premier roi scientifique que nous ayons eu. Dans sa jeunesse, il a reçu une éducation scientifique, mathématique assez poussée. On lui a appris à 12-13 ans la loi de Mariotte, qui n'est pas simple à comprendre. Il est vraiment passionné par tout ce qui est science. Il a des laboratoires. Alors, on l'a représenté toujours en train de limer ses serrures, mais ça va bien au-delà. Il collectionne les appareils scientifiques. Il lit les revues et les ouvrages consacrés aux sciences. Dans sa bibliothèque, on remarque la présence d'ouvrages scientifiques. C'est vraiment un grand spécialiste des sciences.
Fondateur de ce qui deviendra l'école des mines, qui s'appelait à l'époque l'école de géométrie souterraine, je crois.
Voilà, et alors, entre autres.
On parlait de Cherbourg, passionné aussi par la mer, par tout ce qui s'y fait, comme le prouve cette extraordinaire expédition scientifique que Louis XVI avait initiée en 1785.
Monsieur Lapeyrouse, j'ai grande confiance en vous. Aussi ai-je pensé à vous pour commander une longue exploration.
Où votre majesté m'envoie-t-elle?
Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines, l'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation.
Sire, je demeure à vos ordres.
Nous ferons route au sud-sud-ouest jusqu'à Biscay, puis à l'ouest de Finistère pour y trouver les alliés. Nous devons passer par Rio et le Cap Horn jusqu'au Pacifique.
Et c'était le départ de Lapeyrouse dans le Pacifique en 1785, une expédition qui se terminera, on le sait, tragiquement. On dit d'ailleurs que sur l'échafaud, Louis XVI avait demandé des nouvelles de Lapeyrouse.
Oui, alors c'est pas sur l'échafaud.
Ou à veille,
quelques jours avant de mourir, il demandait encore des nouvelles de Monsieur de Lapeyrouse, dont on n'avait aucune nouvelle. Et en effet, il a été très intéressé par cette expédition. Il a lui-même rédigé une partie des instructions destinées à Lapeyrouse. Lapeyrouse, c'est en fait une anticipation de l'expédition d'Égypte faite par Bonaparte, où on voit des savants, on voit alors l'expédition d'Égypte est beaucoup plus importante du point de vue recherche scientifique. Il reste que cette recherche est très importante, et pour la France, on veut bien sûr concurrencer l'Angleterre dans ces mondes lointains, mais il y a aussi un but scientifique. Vous savez que Louis XVI se passionne pour la marine.
Oui, parce que c'est sous Louis XVI que la marine française, je crois, atteint son apogée. Jamais elle n'a été aussi puissante.
Jamais elle n'a été aussi puissante. Et elle s'est mesurée, alors avec plus ou moins de bonheur, avec la flotte anglaise, mais parfois avec de grands succès. Bon, le grand problème de la marine à ce moment-là, c'est le problème de l'absence d'un état-major solide, d'une amirauté équivalente évidemment à l'amirauté britannique, manque d'expérience de certains marins. Mais il reste que quand même, c'est une marine très brillante et qui fait ses preuves pendant la guerre d'Amérique.
Et voilà, justement, la guerre d'Amérique qui a été aussi une des grandes affaires voulues, menées par Louis XVI, dans sa politique étrangère, c'est important. La seule guerre, d'ailleurs, parce que contrairement à ses prédécesseurs, à Louis XIV, à Louis XV, il n'y aura que cette guerre, au fond, dans le règne de Louis XVI, contre l'Angleterre, contre la puissance navale britannique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la marine française aussi qui a participé à la guerre d'indépendance et qui a même mis un point final. Et c'est assez curieux, ce roi de France qui vient soutenir une république contre le royaume d'Angleterre.
Alors, c'est une volonté surtout de revanche contre l'Angleterre, parce que la France a été quand même vaincue pendant la guerre de 7 ans. Elle a eu ce désastreux traité de Paris de 1763, qui a fait perdre le Canada, les possessions dans les Indes. Et donc, il y a une volonté de revanche qui se trouve aussi dans la population. Il y a une sorte de nationalisme. Le mot n'existe pas encore, mais il est très profond, et on le verra exploser sous la Révolution.
Ben, le bateau qui va inaugurer à Cherbourg, c'est le Patriote.
C'est le Patriote.
Je crois que le monde a été apparu pendant la Révolution.
Ah non, le mot est antérieur à la Révolution. Et donc, ce roi, poussé sans doute aussi par l'opinion, poussé par Beaumarchais, qui, bien sûr, commence son commerce avec les insurgents, va se lancer dans cette guerre d'Amérique, dans la crainte en particulier, après la bataille de Saratoga, d'une réconciliation entre les deux puissances anglo-saxonnes qui tomberait sur les Antilles françaises. Donc, c'est surtout contre l'Angleterre, plus que pour l'indépendance américaine, et par idéal.
Qui est un succès militaire, mais sans beaucoup de résultats pour la France sur le plan diplomatique, en fait.
Oui, parce que le roi a la volonté d'équilibre européen, de restaurer l'équilibre européen, et ultérieurement de s'entendre avec l'Angleterre contre les aigles prédateurs de l'Est, la Prusse, l'Autriche, la Russie, qui pratiquent une politique de total cynisme. Vous voyez le partage de la Pologne en 1772. Donc, il se méfie beaucoup des puissances de l'Est, et il a déjà, en 1783, au moment de la paix avec l'Angleterre, l'idée de se réconcilier avec elle, d'où évidemment une certaine modération qui a pu être critiquée à l'époque à l'égard de l'Angleterre.
En tout cas, une guerre en Amérique qui a coûté cher, en aggravant ce qui sera du début à la fin du règne de Louis XVI le plus grand problème du régime, et qui sera à l'origine même de sa perte, le problème financier.
Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes.
Quel est votre avis, Monsieur Necker?
Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
Non, Monsieur Necker. Votre seconde option?
Convoquer les États généraux, sire.
Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker.
Sire, c'est inévitable.
Et c'était un extrait du film La Révolution française de Robert Enrico, une conversation entre Louis XVI et son contrôleur des finances Necker en 1788 à propos d'un problème en fait qui s'est posé dès le début du règne de Louis XVI, Jean-Christian Petit-Fils, qui était le problème financier, un grave déficit que Louis XVI essaiera constamment de combler.
Oui. Alors, au départ, le déficit n'est pas considérable au moment de la mort de Louis XV. Il y a une vingtaine de millions de livres sur 500 millions de livres de déficit, sur 500 millions de budget, si vous voulez. Mais évidemment, ça va s'aggraver dans des proportions considérables avec la guerre d'Amérique, puisque cette guerre d'Amérique, on la finance comment ? Sous l'influence du banquier genevois Necker, qui est directeur général des finances, on la finance par l'emprunt. Ce qui est en fait en soi une maladresse, parce que la population française, qui était très nationaliste et qui voulait cette guerre contre l'Angleterre, était prête à payer davantage d'impôts directs, notamment la taille, pour financer cette guerre. Mais après la victoire, après 1783, au moment où on va commencer à lui présenter l'addition, parce qu'il va bien falloir rembourser ses emprunts, et donc il va falloir augmenter les impôts, eh bien, le peuple, l'opinion publique ne comprend pas.
De tous les ministres faits de Louis XVI, les plus importants ont toujours été, à cause de ce problème, justement, appelons-les les ministres des Finances.
Les ministres des Finances, le contrôleur général, le directeur général des Finances.
Mais qui avaient tous, et c'est là aussi ce qui est passionnant en vous lisant, et qui avaient tous des idées plus ou moins révolutionnaire, et plutôt plus que moins. Turgot a été le premier, il veut réduire, il déclare que pour réduire le déficit, il faut réduire les dépenses de la cour, il pense même abolir la corvée, ce qui va évidemment va dresser contre lui la noblesse et les parlements, et ce sera pareil tout au long du règne avec les deux successeurs, avec Necker, qui viendra deux fois, avec Calonne surtout.
Voilà, alors Necker est probablement plus conservateur qu'on le pense, sauf qu'il a fait un acte révolutionnaire qui a été quand même son compte-rendu de 1781, puisqu'il publie les dépenses de la cour, les dépenses du budget, il donne il livre à l'opinion ce qui restait secret. Et vous savez que dans la monarchie, le cœur de l'État, le système politique politique lui-même doit rester secret. Toute la politique du roi, c'est le secret du roi. Et la mettre le budget de l'État livré dans l'opinion, ce budget, c'est un acte révolutionnaire.
Tout le monde, et tous ceux d'ailleurs qui vont faire échouer toutes les réformes, cette contre-révolution aristocratique,
qui est
folle de rage.
Voilà, il y a une réaction aristocratique extrêmement violente qui, en fait, a commencé dès la mort de Louis XIV en 1715, qui s'oppose aux réformes royales. Louis XVI est un roi réformateur, c'est pas un roi conservateur comme on nous présente très souvent. Et en effet, il s'est appuyé d'abord sur Turgot, ensuite sur Necker, qui est quand même un homme un peu plus conservateur.
Mais il les chasse à chaque fois. Il y a cette phrase, je voulais simplement vous interrompre une seconde, Jean-Christian Petit-Fils, parce qu'elle est prophétique. Quand il se débarrasse de Turgot, parce que justement celui-ci est très critiqué par l'aristocratie, par la noblesse, Turgot a cette formule extraordinaire, dit-il à Louis XVI, n'oubliez jamais, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot. Et c'est Charles Ier, c'était le roi d'Angleterre.
Voilà. Et Louis XVI, il faut le dire, Louis XVI a été fasciné toute sa vie par le destin de Charles Ier. Il avait le livre d'histoire d'Angleterre de Hume, il le relisait souvent, et jusque dans les derniers temps, il le relira, et essayant justement de faire le contraire de ce qu'a fait Charles Ier au moment de son procès, on pourrait éventuellement en reparler, mais et prenant le contre-pied, Charles Ier étant opposant sa propre légitimité à ses juges, et disant que de quel droit me jugez-vous, Louis XVI, au contraire, va essayer d'entrer dans le jeu de ses juges pour essayer d'expliquer qu'il était tout à fait honnête et qu'il a pratiqué la politique voulue.
Alors, revenons-en à sa politique financière avec ses grands financiers, donc avec Turgot qui s'en va, Necker qui est également chassé. En arrive un troisième, le plus important sans doute, qui est Calonne, qui arrive, je crois, en 1780 à la tête des finances et qui va proposer au roi, ou je ne sais pas si c'est le roi qui le lui propose, ce que vous appelez une véritable révolution royale. Ça, c'est ce qu'on oublie tout le temps. On a l'impression, en vous lisant Jean-Christian Petit-Fils, que Louis XVI a fait avec Calonne, et a raté avec Calonne, ce que réussira la Révolution française, parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'abolition des privilèges.
Absolument. Le plan Calonne, auquel Louis XVI adhère pleinement, et jamais peut-être un roi n'a à ce point soutenu un ministre, est véritablement révolutionnaire. Il s'agit d'abolir les barrières douanières. Barrières douanières intérieures, de proclamer la liberté du commerce des grains, ce qu'avait tenté déjà de faire Turgot, de créer une banque nationale à partir de la caisse d'escompte, de créer des assemblées provinciales pour aider l'internant à la répartition des impôts, et puis surtout de créer un impôt en nature qui s'appelle la subvention territoriale, qui est un rappel de la dîme royale de Vauban, du projet de Vauban, qui consiste, bref, à fiscaliser tous les privilégiés, l'Église de France,
qui était exempt,
qui était et la noblesse, la haute aristocratie.
C'est la nuit du 4 août, la nuit du 4 août.
Donc c'est une rationalisation de l'État, suppression des privilèges indus, suppression des abus, et malheureusement, Louis XVI se meut dans une société complètement bloquée, et ce plan Calonne se heurte à l'opposition des notables, puis après, ultérieurement, malgré quelques modifications, à l'opposition des parlements.
Ça, c'est quand même un velléité. De ce point de vue-là, ça c'est pas une légende. Hein. Tout le monde l'a souvent dit. C'est un homme qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées, qui a finalement freiné des cas de fer. Enfin, pas freiné des cas de fer, mais qui a finalement buté devant l'obstacle que représentait l'aristocratie.
Oui, c'est un homme timide, faible, influençable, c'est indiscutable, mais il faut mesurer aussi le poids des résistances. Et ces résistances sont vraiment très puissantes, très fortes.
D'où c'est l'échec de cette révolution royale, donc qui échoue, avant celle qui se déclenchera 2 ans plus tard, et que dit-on aurait surpris Louis XVI lorsque le matin du 15 juillet 1789, le duc de La Rochefoucauld lui annonçait ce qui s'était passé la veille à Paris.
Sire, sire.
Qu'y a-t-il ?
Les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Oh, mon peuple, que vous ai-je donc fait ? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet. Et vous me traînez au supplice, et vous me traînez au supplice. Français, Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut jusqu'à naissance. Le même ciel nous a vu naître tous. J'ai des enfants dans votre enfance. Oh, mon peuple, ai-je donc mérité tant de tourments, tant de peines? Quand je vous ai donné la liberté, pourquoi me chargez-vous de chaînes? Pourquoi me chargez-vous de chaînes?
Et c'était Marc Augeret, La Complainte de Louis XVI, une chanson qui date de 1793, 4 ans après le début d'une révolution, qui au début, il faut le rappeler, Jean-Christian Petit-Fils, n'est pas dirigée ni contre Louis XVI, ni même contre la monarchie.
Non, l'idée est de créer une monarchie constitutionnelle. Le problème, c'est qu'en fait, on s'y est assez mal pris, puisque dès le début de la révolution, le 17 juin et puis le 20 juin avec le serment du jeu de paume, les états généraux qui se sont proclamés Assemblée nationale, et qui vont bientôt se proclamer Assemblée nationale constituante, accaparent la totalité de la souveraineté. Et dès lors, le roi n'est plus qu'un roi suspendu, en quelque sorte, en attente de sa feuille de route, si je puis dire, puisqu'on va écrire une constitution dans laquelle on définira exactement son rôle. Les choses se sont passées de cette façon, et à partir de là, on peut dire que dès le départ, les choses étaient mal enclenchées.
Vous voulez dire qu'au fond, parce que il se met, on le force évidemment, à arborer la cocarde tricolore, il accepte les débuts de la révolution, il va même accepter et prêter serment à cette constitution qu'on lui impose, mais sans le vouloir. Hein. Est-ce que on l'a souvent accusé justement d'avoir constamment cédé aux pressions de la rue, des révolutionnaires les plus durs? Est-ce que c'était par faiblesse? Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que c'est par calcul? Est-ce que c'est aussi, on l'a beaucoup dit, à cause de l'influence qu'exerce sur lui une femme devenue extrêmement impopulaire depuis l'affaire du collier de la reine qui a précédé la révolution, et qui était Marie-Antoinette et qui était sa femme?
Non, c'est plus compliqué que ça. En fait, la grande révolution, c'est ce déplacement de souveraineté. Le roi n'est plus le souverain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autant Louis XVI était prêt à accepter une représentation nationale, sous la force des événements, sans aucun doute. Mais il en admettait la nécessité d'une représentation nationale, d'une assemblée unique à la fin. Au départ, il voulait trois assemblées, puis après 89, il était d'accord pour une assemblée unique, donc une représentation de la nation. Mais lui-même voulait être l'incarnation de la nation, voulait être le représentant de la souveraineté. Et donc, il pensait plutôt à une révolution de type anglais. Vous savez qu'un siècle plus tôt, en 1688, les Anglais ont fait une révolution, c'est la deuxième, puisqu'il y a eu d'abord la première avec Cromwell, la seconde, c'est la Glorious Revolution, c'est la révolution libérale qui a permis en fait une évolution vers la démocratie, puisque aujourd'hui l'Angleterre est le pays le plus démocratique du monde, si l'on peut dire, mais qui a aussi une tête couronnée comme donc...
Ça c'est le modèle auquel se référait Louis XVI.
On peut le dire, bien sûr, puisque aujourd'hui encore, la reine d'Angleterre dans son parlement est souveraine, mais il n'empêche qu'il y a une représentation des populations et qu'il y a un premier ministre qui détermine la politique. Il ne voulait pas abandonner sa souveraineté et voulait donc un exécutif fort face à une assemblée qui aurait voté le budget.
Vous n'avez pas répondu à ma première question, Jean-Christophe Petit-Fils, à une de mes questions. C'est le rôle, parce qu'on a dit que c'était un homme sous influence, homme influençable. Alors le rôle de l'entourage, on l'a vu, qui lui a imposé ou qui lui a imposé d'abandonner les réformes qu'il a faites avant la Révolution, et notamment celle de Calonne. Et le rôle aussi de Marie-Antoinette, très mauvaise conseillère.
Le rôle de Marie-Antoinette n'a commencé à prendre de l'ampleur qu'à partir de 1787, après l'échec du plan Calonne. Louis XVI, comme je le disais, c'était tellement investi dans ce plan de révolution royale que, se heurtant à l'opposition absolue de la haute aristocratie, à une contre-révolution véritablement aristocratique, il est tombé dans une sorte de dépression nerveuse, et le Louis XVI que nous connaissons à travers les manuels scolaires, c'est un peu ce Louis XVI postérieur à 1787. Avant, il était tout à fait différent. Et Marie-Antoinette elle-même a été horriblement déçue de l'opposition de la cour, et elle dira cette phrase tout à fait étonnante qu'on connaît généralement pas: je suis la reine du tiers, moi. Donc il y a une tentative d'alliance entre le roi et le tiers-état qui a échoué à ce moment-là contre la haute aristocratie.
Comment expliquer, Jean-Puissant Petit-Fils, que ce roi très populaire pendant presque toute la durée de son règne avant la Révolution, jusqu'en 1786, et même au début de la Révolution, il est acclamé à la fête de la Fédération, il donne le sentiment qu'il se rallie à la Révolution, brusquement devienne, parce qu'il est devenu impopulaire. On l'a même accusé de trahison. Évidemment, on pense à l'affaire de Varennes, quand il s'en va. Là, est-ce qu'il a trahi cette Révolution? D'abord, est-ce qu'on peut trahir quelque chose auquel on n'adhère pas, finalement, à laquelle il n'adhérait pas sincèrement?
Il acceptait, comme je le disais, il acceptait une représentation de la nation, il acceptait les conquêtes de la Révolution, il acceptait les droits de l'homme, il a, avec quelques réticences au début, mais il les a acceptés.
Il a même, on l'a pas dit, parce que c'était antérieur à la Révolution, il faut peut-être le mentionner, cette importance, sa politique vis-à-vis des protestants et des juifs.
Absolument, il a pris un statut particulier pour les protestants, donc sous l'influence de Malesherbes, et à Malesherbes, il a dit, monsieur de Malesherbes, vous êtes protestant, maintenant je vous fais juif, à vous de vous occuper d'eux. Et en effet, il y a eu quelques mesures qui ont été prises, probablement c'est pas l'émancipation des juifs qui sera décidée sous la Révolution, mais c'est déjà une très bonne chose. Et puis il y a eu l'abolition de la torture, etc. Il y avait beaucoup d'éléments très positifs dans le règne de Louis XVI. Louis XVI, donc, a essayé d'être finalement le roi de la Révolution. Il a accepté de couronner cette Révolution, mais c'est plutôt la Révolution qui ne voulait pas de lui. Et à tel point qu'on a construit une constitution, la constitution de 1791, avec un exécutif faible. On lui a donné quand même quelques éléments de pouvoir qui étaient le droit de veto, mais aussitôt que le roi l'exerçait, la foule était dans la rue, on criait « Monsieur Veto, abat Monsieur Veto, abat Madame Veto ». Il y a une volonté, on se levait pas à l'Assemblée quand le roi se présentait, il y avait donc une volonté d'humilier le roi, et ça a profondément choqué Louis XVI.
Dans votre livre, Jean-Christophe Petit-Fils, on a l'impression d'un roi révolutionnaire avant la lettre, avant la Révolution. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre, vraiment, où on apprend des tas de choses inconnues, ou peu connues, ou oubliées sur Louis XVI? C'est une réhabilitation?
C'est en partie une réhabilitation, certainement par rapport notamment à la vision fausse de ce roi bonnet, lourd, faible, que nous présente les manuels scolaires. Ceci étant, il ne faut pas tomber dans la géographie du roi martyr.
Mais ça, c'était les historiens monarchistes.
Voilà, sur la Restauration, on a poussé beaucoup cette sensibilité. Non, j'essaie de présenter le vrai visage du roi, et c'est un visage, à mon avis, méconnu. C'est un roi méconnu. Louis XVI mérite d'être davantage connu. Sans doute, sa faiblesse a occulté une grande partie de ses qualités.
Merci Jean-Christian Petit-Fils. Je recommande donc chaleureusement la lecture de votre biographie, qui est passionnante et, si je puis dire, révolutionnaire. Louis XVI, donc, qui vient d'être publié chez Perrin. À lire également La Monarchie des Lumières d'André Zisberg, publié aux éditions du Seuil dans les collections Point Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des deux films, La Révolution Française et Les Années Lumières et Les Années Terribles, c'est un film en deux parties, de Robert Enrico et Richard Effron, avec Jean-François Balmer, qu'on a entendu dans le rôle de Louis XVI et qui est disponible en VHS chez Gaumont, ainsi qu'un extrait de La Tribune de l'Histoire d'André Castelot, diffusé le 14 janvier 89 sur France Inter. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tessel et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi à l'occasion...